Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, une émission consacrée évidemment au cinéma avec des chroniques et puis un blind test pour jouer. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Manu, tu as deux films aujourd'hui.
Oui, donc j'ai Men, le film d'Alex Garland, et puis Je tremble au Matador, un film chilien.
Et toi Guillaume, un film, un revenant?
C'est ça, une ressortie, celle du Pacte des Loups en 4K de Christophe Gans.
Quant à moi, je vous parlerai de Incroyable mais vrai, le dernier film de Quentin Dupieux. Ça donnera l'occasion de jouer à un blind test. Alors certes, on a déjà joué à un blind test Quentin Dupieux il y a un an. Ce sera l'occasion de faire un clin d'œil avec des dialogues savoureux. Quant à Marine, elle nous parlera du film Le Prince, film allemand. Mais nous allons commencer avec un film chilien, en pleine dictature de Pinochet. Un travesti accepte par amour de cacher des documents secrets. C'est Je tremble au Matador.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va ?
Adaptation du roman éponyme de l'écrivain et artiste LGBT chilien Pedro Lemebel, hein, Je tremble au Matador, a pour mérite de proposer un point de départ singulier, hein, renouvelant le train-train un peu ronflant, même si essentiel, du cinéma politique sud-américain, revenant sur les années traumatisantes de la dictature. Alors, le récit se déroule au Chili en 1986, période où Pinochet dirigeait le pays. Un soir, à la sortie d'une boîte, un travesti vieillissant, la Loca del Frente, rencontre, après une intervention musclée de la police d'État, un jeune révolutionnaire idéaliste. La Loca accepte de cacher des documents secrets chez lui, scellant une forme de contrat risqué entre les deux hommes. Ces derniers sont des parias d'un système fasciste, vivant chacun dans le secret, l'un pour son activisme et l'autre pour son homosexualité. Ils sont tous deux soumis à la marginalité, à vivre cachés dans un environnement sous cloche. Une étrange histoire d'amour va se nouer entre les deux, étrange car jamais réellement explicite, toujours sur le fil dans un entre-deux révélant la pudeur des personnages. L'hétérosexualité de Carlos est clairement affichée, mais son attirance pour le travesti navigue dans des eaux troubles entre l'amitié naissante et le désir amoureux. Cette ambiguïté bienveillante et non dérangeante traverse le film avec naturel, hein, déjouant tous les pièges inhérents à ce type de postulat. Il n'est pas question de trouble de l'identité sexuelle ou de refoulement, mais d'une simple connexion entre deux êtres qui s'aiment sans qu'eux-mêmes ne le sachent de quelle manière, en fait. La pertinence de l'aspect politique, hein, qui délaisse les grands discours sur le devoir de mémoire, se situe dans cette intimité, dans la relation interdite entre les protagonistes souffrant chacun à leur manière. Mais le film souffre aussi d'un déséquilibre entre les personnages, hein, lié à la présence d'acteurs au tempérament très disparate et même au talent à géométrie variable. Hein. Leonardo Ortiz Gris, hein, qui incarne Carlo, hein, est plutôt bon, mais il affiche une telle sobriété au risque de la transparence qu'il est littéralement vampirisé, voire éclipsé, hein, par l'étonnant Alfredo Castro, un habitué des rôles difficiles et fantasques. Aperçu dans le Neruda de Pablo Larraín ou encore dans Les Amants de Caracas, Alfredo Castro est un véritable acteur de composition, passé maître dans l'art des métamorphoses physiques, déployant une trivialité rejoignant les géniaux transformistes du 7e art. Alors profil là idéal pour incarner un travesti sans en être un dans le privé. Ce qui est plutôt à souligner aujourd'hui, où on demande souvent maintenant ce que ce soit des vrais travestis qui le jouent, ce que j'ai cru au départ. Hein. Mais non, c'est un vrai rôle de composition, en fait. Bref, un détail, hein, me direz-vous, mais qui fait un peu tout l'intérêt du film. Hein, tant Alfredo Castro s'y montre impressionnant, hein, tour à tour drôle et émouvant. Le problème est qu'il est pratiquement le seul à jouer, accentuant certes sa solitude, mais il ne laisse aucune possibilité aux autres d'exister. Alors ce n'est pas tant le casting en lui-même qui pose problème, mais plutôt le scénario et l'écriture des personnages. Il manque étonnamment de respiration, hein, sacrifiant tous les personnages secondaires qui peinent à exister. Alors tout ce qui est développé, enfin esquissé, en dehors de la relation entre Carlos et la Loca, est anecdotique, sans réel intérêt. Les efforts d'aérer le film paraissent artificiels, d'autant que la mise en scène hésite entre une sophistication, alors parfois très belle dans les jeux de séduction et les non-dits, et aussi une volonté un peu forcée de réalisme, contexte oblige. Alors au final, Je tremble au Matador déçoit par son manque d'ambition formelle, ou plutôt son absence d'homogénéité, son attachement à des conventions d'un cinéma dit social, mais il séduit aussi par la manière dont Rodrigo Sepúlveda, le réalisateur, filme ces deux paumés animés d'une envie d'exister au cœur d'un régime totalitaire. Et rien que, là je le répète encore, rien que pour la prestation d'Alfredo Garcia, l'expérience se mérite. Mérite et non se mérite.
Je tremble au Matador est en salle depuis le 15 juin. À Francfort, une galériste et un jeune homme congolais tentent de surmonter les obstacles qui les séparent. C'est Le Prince, un film allemand.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Rien ne prédisposait Joseph, diamantaire congolais en attente de régularisation, à rencontrer Monica, une galeriste allemande et blanche. Un soir, elle pousse la porte d'un bar clandestin à Francfort pour acheter des cigarettes et rencontre Joseph alors qu'il tente d'échapper à la police. Entre eux, c'est le coup de foudre et l'utopie également, que leurs différences ne les sépareront pas.
Comment ça va ?
Je vais bien.
There is a lot of Congolese in exile. Half of my family is there. Maybe you can open a gallery.
Un Künstler.
Diamonds. You just go to the bush and pick them.
So if you own some land, you just open a mine like this?
Why not?
C'est un premier film de Lisa Bierwirth, jeune réalisatrice allemande. Un premier film abordé du point de vue du personnage féminin. Un film subtil, maîtrisé, qui n'a pas peur ni de parler de sentiments, ni d'interroger toujours avec intelligence nos conventions et nos préjugés. Le personnage de Monica se heurte elle-même à un certain sexisme latent dans sa propre carrière, en proie à un sentiment d'illégitimité qui l'empêche d'avancer. Elle n'envisage d'abord pas sa relation amoureuse comme une relation mixte, mais c'est son entourage qui va, au fur et à mesure, de façon insidieuse et bien posée sur le couple et sur la vision qu'elle même en a. Qui est finalement cet homme mystérieux avec qui elle partage sa vie, qui a des diamants dans les poches et qui se prétend prince ? Est-ce un criminel, un arnaqueur, un profiteur qui souhaite se marier avec elle pour les papiers ? Quant à Joseph, il a aussi fini par sentir la méfiance dans sa tête. Que lui veut cette femme blanche ? Pourquoi s'est-elle tant amoureuse de lui ? Projette-t-elle sur lui une sorte d'exotisation malvenue ? Est-il une passade pour elle avant qu'elle ne revienne à sa vie bourgeoise ? La principale inspiration pour la réalisatrice a été la relation entre sa propre mère et son mari d'époque, originaire de Kinshasa, Congo. Lisa Bierwirth explique qu'au travers de son film, elle remet en question l'idée romantique que l'amour peut tout surmonter, y compris les différences culturelles et les conventions sociales. Car même sur le sol européen, eh bien un couple mixte qui n'a pas la même appartenance ethnique, donc la même nationalité, la même condition sociale, aura bien du mal à être perçu comme un couple classique. Comme le dit Lisa Bierwirth, on accepte très bien que Julia Roberts et Richard Gere tombent amoureux après une passe dans un hôtel, mais ce n'est pas possible pour un couple comme celui de Monica et de Joseph, pour qui on tente toujours de trouver une raison à leur attachement. Et c'est leur entourage qui les ramène sans cesse à leurs différences. Monica va commencer à éprouver des doutes lorsque sa meilleure amie s'inquiète. Mais ce sont également les connaissances de son amant qui vont semer le doute en lui rappelant que soi-disant les hommes congolais ne sont pas les plus fidèles. Et le film jouera d'ailleurs de façon très intelligente avec les appréhensions et les préjugés des spectateurs. Et ce, jusqu'à la fin. Le film dévoile également un Francfort interlope, des restaurants tenus par des couples venus d'Afrique noire dans lesquels on fait des jeux d'argent, des petits trafics, des arrangements avec la loi et la légalité. Et l'un des aspects importants de ce drame à forte teneur sociale également est l'usage de 4 langues différentes usitées par les différents personnages. On y parle allemand, français, anglais et lingala. Et puis Le Prince, eh bien, c'est aussi la redécouverte de Passy, inconnue en Allemagne, mais ancienne star du rap en France, qui interprète le rôle principal de façon très convaincante. Passy, que l'on avait connu dans les années 90 avec le groupe Ministère Amer, en compagnie de Stomy Bugsy, et qui a ensuite brillé en solo et en duo, notamment avec le titre « Face à la mer », un titre enregistré avec Calogero, qui a bien tourné, rappelez-vous, même trop tourné sur les ondes, un certain été 2004. avant eh bien, que Passy ne se consacre finalement à la production musicale, notamment avec des groupes congolais. Il est ici accompagné de Ursula Strauss, actrice autrichienne pas forcément très connue en France, mais très célèbre en Allemagne, et qui est l'une des figures un peu emblématiques du nouveau cinéma allemand, le cinéma de ces 20 dernières années. En effet, depuis les années 2000, eh bien, l'Allemagne connaît un certain renouveau cinématographique. D'abord avec l'apparition d'une nouvelle génération de cinéastes, entre autres ceux qui ont créé la revue cinéma Revolver. Inspirée des cahiers du cinéma, cette revue avait pour but de compiler des entretiens autour de la vision du cinéma et de la technique cinématographique, des entretiens eux-mêmes réalisés et retranscrits par de jeunes auteurs cinéastes. Issus de cette même génération, donc fin des années 90, début 2000, on retrouve Tom Wicker qui a réalisé Cour Lola Cour, le réalisateur germano-turc Fatih Akin, Denis Ganzel qui réalise La Vague en 2008 et Sébastien Skipper qui réalise en 2015 Victoria, un film qui a la particularité d'être tourné en un seul plan séquence. Et on voit également eh bien, apparaître et s'affirmer les réalisateurs et réalisatrices issus de ce que l'on appelle l'école de Berlin, comme Angela Chanelec qui a réalisé J'étais à la maison mais, chroniqué d'ailleurs ici même dans Cinérama, mais aussi Christiane Petzold qui a réalisé Barbara, Phoenix, Transit ou encore récemment Ondine avec Paul Labière.
Le Prince est en salle depuis le 15 juin. Alain et Marie emménagent dans un pavillon, une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. C'est le dernier film de Quentin Dupieux.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
On a une raison d'être inquiet. Ça, on n'est pas là pour rien. Mais c'est pas évident d'en parler comme ça, quoi.
Puisque la dernière comédie de Quentin Dupieux est courte, moins de 1h15, eh bien faisons court également. On a l'habitude de voir chez le réalisateur de Rubber, hein, l'histoire de ce pneu vengeur, un cinéaste de l'absurde et de l'anormalité. Son précédent film Mandibule nous causait d'une mouche géante qui devait être domptée par deux bonnets pour attaquer des coffres de banque. Or pour ce incroyable mais vrai, le potentiel reste absurde. Un couple de cinquantenaires, Alain Chabat et Léa Drucker, achètent une nouvelle maison qui possède une trappe dans son sous-sol. L'agent immobilier leur raconte qu'elle a un pouvoir fantastique. Elle emmène ceux qui s'y introduisent dans une faille spatio-temporelle. Mais je n'en dirai pas plus hein, pour ne pas gâcher les révélations du film, car Dupieux, sachant qu'il tient là eh bien, le nœud du scénario, met en scène cette révélation non seulement dans des dialogues qui se coupent, mais aussi au moyen de flashbacks ou d'avancer dans le temps.
Quand on descend dans ce conduit...
C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner.
Écoute, laisse-le parler, tais-toi.
Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose.
Bah dites-nous quoi, merde.
Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité.
Alors de manière très étrange, hein, dans ce couple, la femme, Léa Drucker, va s'emparer de ce trou quand Alain, agent d'assurance, s'en désintéresse complètement, préférant largement dormir. Faut dire qu'il est inquiet car au boulot, dans une agence d'assurance, eh bien, il doit régulièrement batailler sur des dossiers qui ont sans doute sont improbables. Alors il refuse l'extraordinaire pour se complaire dans l'ordinaire. C'est un des ressorts comiques et un des fils tirés par le scénario car cet intérêt divergent pour le trou spatio-temporel eh bien, va distendre le couple qui finira par se croiser dans cette grande maison. On est à l'approche de la satire sociale, ce qui est assez nouveau hein, pour Dupieux qui avait l'habitude de rester en absurdie pour s'amuser de situations et de ses personnages. Alors aux côtés de ce couple, un autre vient parader un moment hein, dans une scène de repas qui est sans doute le moment le plus hilarant du film. Là encore, je garde le motif de cette discussion irrésistible, mais ce couple qui fait un bond en avant dans le temps, hein, plaçant la beaufrie et le machisme dans l'espace numérique, assoit encore plus la normalité de ce couple qui se disloque.
Ah merde, t'es enceinte.
Ah non, non, carrément pas.
Ah putain, parle pas de malheur.
Bon, tu veux que je le dise pour toi ?
Ah vas-y.
Vous êtes prêts ou quoi ?
On est prêts depuis 30 ans, vas-y, balance.
Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Voilà les nouvelles.
Hein. Incroyable.
Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense.
En termes de narration, Dupieux use de flashback ou forward, épousant l'étirement spatio-temporel avec des suites de scènes parfois incongrues, parfois banales, parfois drôles, parfois inquiétantes quand même. Mais on reste évidemment dans un mouvement de comédie. La durée du film resserré permet un bon rythme, hein, tout en ayant cette impression que les scènes s'étirent avec des cadres un peu figés, puis une image qu'on jurerait des années 2000. Comédie fantastique, se moquant de la normalité, satire d'un monde tiraillé, incroyable mais vrai, est un objet filmique drôlatique et sans doute le plus structuré, moral, hein, de tous les films de Quentin Dupieux.
Mais c'est juste dingue.
Et alors, c'est pas tout.
Ce film, incroyable mais vrai, nous donne l'occasion de jouer avec la filmographie de Quentin Dupieux.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Quentin Dupieux, c'est 20 ans de carrière, un tube techno, et puis 13 films dont une majorité de longs métrages, mais vraiment peu de spectateurs. Il a l'habitude de faire un peu plus de 200 000 spectateurs quand ça marche bien. Mais ça nous donne quand même l'occasion, la sortie de ce dernier film, de jouer à un blind test. Donc 5 extraits, il faut découvrir les titres, et ça va être extrêmement facile pour ceux qui connaissent, évidemment.
Tu sais, je connais un peu moi aussi tout ça.
Ouais.
Ouais, parce que je fais du montage, en fait. Là, je suis serveuse parce que j'ai rien d'autre à foutre dans ce bled. Hein, mais ma vraie passion, c'est le montage, ouais, carrément.
Montage, ouais.
Tu sais ce que je fais? Je m'amuse à remonter des films qui existent déjà. Et comme ça, je change l'histoire. Ça, c'est cool. Là, par exemple, j'ai remis Pulp Fiction dans l'ordre. Tu vois Pulp Fiction?
Ouais.
Le concept du film, c'est que tout était mélangé. C'était ça qui était intéressant. Et du coup, moi, pour voir, j'ai remis les scènes dans l'ordre. Et le résultat, c'est carrément nul, en fait. Ouais. C'est carrément nul, ouais.
Mais comment tu fais, en fait, pour remettre un film dans l'ordre? T'as une machine spéciale?
C'est trouvé.
Et c'est le DA.
Oui.
Du jardin.
Oui. Jean Dujardin et Adèle Hanel qu'on entend dans cet extrait. Georges Lacarantaine quitte du jour au lendemain sa femme et son travail pour s'offrir le blouson de ses rêves. C'est une veste en daim à franges. Et le vendeur lui cède avec un caméscope numérique. Il prend une chambre d'hôtel dans une station des Pyrénées et fait la connaissance de Denise, donc une serveuse cinéphile qui rêve de devenir monteuse. Et il lui fait croire qu'il est un réalisateur en repérage pour un prochain tournage. 213 000 spectateurs en France pour Le Dain. Deuxième extrait de ce blind test consacré à Quentin Dupieux.
Salut fiston.
Salut pas.
On se mangeait un petit bout?
Oh non, ça va, j'ai déjà mangé avec un pote. Je t'ai ramené un hot dog.
Oh, c'est gentil ça. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau?
Ouais, ça va, j'ai eu envie de me suicider il y a une semaine environ. Mais ça m'a fait flipper au dernier moment, du coup je l'ai laissé tomber. Je voulais sauter par la fenêtre, mais au final, j'ai regardé une émission à la télé à la place. Ça m'a dégoûté du suicide un peu. Maintenant, j'ai envie d'être vivant. Et toi, ça va pas? Et toi, ça va pas?
La routine, la routine.
Cool.
Dialogue entre un père et son fils, donc, c'est trouvé. Et
c'est Aurel San, non?
Oui, qu'on entend ici avec Benoît Poulvorde.
C'est Au Poste.
Oui. Film de 2018, le commissaire Buron est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme retrouvé gisant dans son sang par Fugain. Celui-ci est logiquement considéré comme le principal suspect. Il s'ensuit alors un interrogatoire qui va durer toute la nuit. 266 000 entrées pour ce film que je trouve vraiment remarquable. Troisième extrait de ce blind test consacré à Quentin Dupieux.
Est-ce que tu te souviens des types que tu as vus hier?
Ah ouais.
C'est les Shivers.
D'accord.
Ok. Répète Shivers.
Shivers.
Voilà, c'est ça. Bon, moi maintenant, je suis un Shivers, tu vois?
Ok.
Voilà, ça veut dire que j'assure à fond.
D'accord.
Il n'y a pas mieux que les Shivers.
Et moi, je suis quoi?
Toi, t'es rien du tout.
Hein?
Donc, avec cette bande, il faut que je t'explique un truc. Je marche sur des œufs, tu vois. Il va de ma répute, je peux être out en moins de 2 secondes.
Waouh.
Est-ce que tu comprends quand je te dis out?
De ne plus dedans.
Voilà, de ne plus dedans. Et je peux de ne plus être dedans en moins de 2 secondes. C'est pour ça que maintenant, il faut que je marche seul. Je ne peux plus traîner avec toi, tu comprends? Toi, tu crains la mort même. Tu crains à l'infini.
Trouvé.
C'est Steak. Oui, c'est Steak, oui. Voilà.
C'est un film de 2007 avec Éric Judor et Ramzy Bedia qu'on entend. Nous sommes dans un futur proche de 2007, soit 2016. La tendance est au lifting. Georges, un étudiant, veut intégrer les Shivers, une bande liftée à l'extrême qui boit du lait et ne fume pas. Blaise, un loser rejeté et ex-ami d'enfance de Georges, aimerait lui aussi faire partie de la bande. Quasiment 300 000 spectateurs en France pour ce film. Quatrième extrait.
Pourquoi tu viens encore ici?
Pourquoi je viendrais pas? J'aime ce job. Ça te pose un problème?
Ah non, 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 on aime tous ce job. C'est juste que c'est différent dans ton cas. T'as été viré il y a 3 mois.
Et alors? Ça change quoi, en fait?
C'est un peu étrange de continuer à venir bosser quand on veut plus de toi. Et en plus, tu respectes même pas les horaires de bureau.
Ouais, et ton ordinateur est même pas branché. Tu fais semblant de bosser. C'est n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, hein? Mais si ça me plaît?
Écoute, je suis désolée, Dolph. Mais si tu continues à venir, je vais être obligée de prévenir la direction.
Moi aussi.
C'est Wrong, c'est ça ?
Oui, film de 2012. Dolph a perdu son chien, Paul. Il continue de se rendre à son travail qu'il a pourtant perdu, on l'entend. Hein, et le palmier dans son jardin se transforme en pin. Il pleut dans le bureau de Dolph sans que ça importune ses collègues. Afin de remettre de l'ordre dans sa vie, il décide de partir à la recherche de son chien. Ça n'a pas trop convaincu hein, dans les salles. 44 000 entrées seulement en France. Dernier extrait de ce blind test.
Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, quand est-ce que je peux commencer à manger ?
Bah ok ! Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien. Dans tous les dîners civilisés, même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de maison a terminé sa première bouchée.
Ok, d'accord. Par contre, t'es pas obligé de nous gueuler dessus, hein, on n'est pas des clébards.
Non, mais elle gueule pas, en fait.
Bah si.
Non, c'est normal.
Ah bon ?
Non, t'inquiète pas, je laisse tomber.
J'ai un problème vocal !
Vocal ? C'est quoi, ce problème ?
Non, mais elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski et... Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi. C'est pas contre toi, elle est comme ça.
Ah ouais ? Ok. Ah ouais, d'accord.
Ouais, il est pas énervé, en fait.
Ok.
Ah ouais.
Tu crois que ça m'amuse ?
Bon, retrouvé.
C'est Mandibule.
Film de 2021. Deux pieds nickelés découvrent une mouche géante dans le coffre d'une voiture volée, qu'ils ont volée. Hein. Ils ont de grands projets avec elle. Ils comptent se faire de l'argent avec la mouche après l'avoir dressée. Voilà.
Je crois qu'ils préparent une suite.
Ah,
oui, oui, mais alors c'est pas avec une mouche, mais je crois que c'est avec un autre cafard.
C'est Mandibule, du coup.
Alors, c'est 235 000 entrées en France pour ce film, bon, bah, carrément décalé, mais ça, c'est forcément l'univers de Quentin Dupieux. Nous faisions ce blind test à l'occasion de la sortie de Incroyable mais vrai en salle depuis le 15 juin. Une femme s'isole à la campagne pour se reconstruire, mais c'est le cauchemar qui l'attend, c'est Men d'Alex Garland.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie, hein.
Une pomme du jardin ?
Oui, elle était délicieuse.
Non, 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 il faut pas faire ça. C'est un fruit défendu.
Oh, je suis désolée, je savais
je
pas.
Je plaisante.
Alors après Ex Machina et Annihilation, hein, Alex Garland délaisse pour son troisième long métrage la science-fiction afin de creuser un sillon, alors un peu dans l'air du temps, hein, le film d'épouvante aux déclinaisons ouvertement féministes. L'accroche de l'affiche est d'ailleurs éloquente. Hein, le mal, M, A, accent circonflexe, L, E, engendre le mal. Le titre lui-même, hein, Men, n'est pas mensonger. Il est bien question d'homme sur le versant un peu convenu de la toxicité. Mais le sujet ne manque pas de piquant et d'audace. De plus, on ne peut pas vraiment reprocher au cinéaste un quelconque opportuniste, car il s'agit d'un scénario qu'il a écrit il y a une quinzaine d'années et qui avait été refusé par plusieurs studios. Après un drame intime, la mort de son mari par suicide ou accident, Harper décide de s'isoler au cœur de la campagne anglaise dans l'espoir de se reconstruire. Elle loue donc pour deux semaines un cottage cossu et spacieux, mais dès son arrivée, un malaise s'installe. Le propriétaire des lieux, malgré ses efforts pour mettre à l'aise la jeune femme, dégage des ondes négatives, à la fois par ses manières intrusives, sa gentillesse mielleuse et ses sous-entendus déstabilisants. Surprise, Harper n'y prête pas guère attention, hein, pensant comme toute citadine qu'elle a affaire à un plouc de la campagne, une version un peu british des redneck texans, avec un côté moins dégénéré et misérable aussi, mais peut-être plus inquiétant finalement. Et puis le lendemain, lors d'une promenade en forêt, elle croise un homme nu qui semble la traquer. Et là, le cauchemar ne fait que commencer, se nourrissant de ses souvenirs post-traumatiques.
Il s'est produit quelque chose. Mon mari est monté sur notre balcon et s'est laissé tomber.
Vous devez vous demander pourquoi vous l'y avez poussé.
Pourquoi ? Je suis pas responsable.
Peut-être pas. Mais si vous lui aviez accordé une chance de se faire pardonner, il serait toujours en vie.
Quoi ?
Comme dans tout bon film de genre, hein, maniant habilement les ambivalences, la question de la santé mentale de Harper se pose. Ce qui lui arrive est-il réel ou sombre-t-elle dans la démence ? Alors peu importe, la métaphore de l'emprise d'une masculinité toxique fonctionne à plein régime, hein, grâce à un imaginaire foisonnant, s'inspirant aussi bien du folk horror des années 70 façon The Wicker Man, de l'univers surréaliste des épisodes de Chapeau et Bottes de Cuir, ainsi que des débordements un peu graphiques de chair des premiers films de Brian Yuzna et notamment Society. Alors derrière l'alibi d'un film à thèse un peu encombrant se cache un grand trip horrifique, viscéral et angoissant, baignant dans une atmosphère viciée dès les premières images. Alex Garland joue le jeu de la série B paranoïaque et décomplexée avec un talent inouï. Sa mise en scène ambitieuse et ample magnifie les décors naturels de la campagne anglaise et de ses vieilles maisons gorgées d'histoire. Alors par la subtilité de son approche, Mann dévoile progressivement ses véritables enjeux. Il s'agit avant tout d'un portrait d'une femme en détresse, hantée par le comportement manipulateur de son ex-mari, qui cherche une issue à son problème, magistralement matérialisé à l'écran, alors grâce à l'interprétation qui est hallucinante de Rory Kinnear, que je ne connaissais pas, il joue dans les James Bond apparemment, qui, à la manière d'un Peter Sellers, incarne presque tous les hommes du film.
Men d'Alex Garland est donc en salle depuis le 8 juin. 5 millions d'entrées en 2001, c'était sans doute pas suffisant, même s'il y a moins de spectateurs dans les salles, et bien qu'à cela ne tienne, ça n'empêche pas les ressorties, notamment du Pacte des Loups, dont tu vas nous parler, Guillaume.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres énéphysiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres.
Miséricorde !
Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout.
21 ans après sa sortie, Le Pacte des Loups se paie un lifting en 4K et une ressortie dans la foulée. Alors un tel traitement sur ce film emblématique de son époque fait bien évidemment plaisir, surtout à l'heure actuelle où, plus que jamais, dans l'esprit des gens, grand spectacle rime avec Amérique. Cette ressortie nous permet de nous replonger dans un temps pas si lointain où, dans notre beau pays, des producteurs et surtout un réalisateur avaient vu grand, très grand, et voulaient bouleverser ses idées préétablies sur le sens de la démesure qui existait déjà.
Son museau était allongé, ses dents des couteaux.
Si c'était pas un loup, c'était quoi alors?
Les gens sont morts. J'entends leur cri.
Quel singulier personnage,
c'est mon frère.
Le Pacte des Loups, c'est le projet fou d'un cinéphile qui voulait casser toutes les barrières. Après un essai dans le giron de la série B américaine avec le très sympathique film à sketch Necronomicon en 93, Gans, épaulé par feu le grand producteur Samuel Adida, avait su marquer les esprits avec sa très réussie adaptation du manga Crying Freeman en 95, très inspiré, lui, déjà, du cinéma d'action de Hong Kong. Ni une ni deux, il embarque avec lui son nouveau pote Marc Dacascos et se met à rêver d'un film d'aventure dans la France du XVIIIe siècle qui lancerait le chevalier Grégoire de Fronsac et Mani, son ami amérindien, donc Dacascos, à la poursuite d'une bête qui dévorerait bergères et manants dans la province du Gévaudan. Mais dans la forêt, personne ne vous entend crier et rien n'est ce qui semble être. Unique, Le Pacte des Loups l'est assurément. C'était d'ailleurs la grosse promesse de l'époque. Mais il faut quand même préciser que le film de Gans n'arrivait pas seul. Il succédait au très nul et affreusement ringard Les Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz, qui avait au moins pour lui d'avoir la même ambition de faire à l'américaine, mais en y important le très mauvais goût que l'on pouvait parfois y retrouver. Et oui, s'inspirer des bastons de Taken dans le cadre d'un polar qui se veut sombre ou faire disparaître le très mauvais coup de théâtre du film dans une avalanche tout aussi hideuse, c'était mal joué. Alors, bien sûr, Le Pacte des Loups n'est pas exempt de défauts et parfois même des mêmes défauts. Sauf que ce qui change tout, c'est la nature de son réalisateur et sa monstrueuse générosité. Le Pacte des Loups, c'est la rencontre explosive entre les récits de Rocambole, Angélique, Marquise des Anges, Cartouche et plus largement les films de Philippe de Broca avec Bébel, mais infusé d'un dynamisme emprunté au cinéma de Hong Kong, Sui Hark et John Woo en tête, et le tout bien évidemment saupoudré d'une dozaine de films de monstres façon Le Chien des Baskerville rencontre Razorback de Russell Mulcahy. Signe qui ne ment pas, le film est en partie monté par le génial David Wu, le monteur attitré des deux réalisateurs chinois précités, et derrière les montages opératiques des syndicats du crime, histoire de fantômes chinois, Gunman, une balle dans la tête, ou le définitif à toute épreuve, soit le plus grand film d'action au monde. Le making-of, signé par l'alors débutant Pascal Laugier, permettra à ce dernier de se faire repérer par le producteur Richard Grandpierre, qui lui financera son premier film 3 ans plus tard, Saint-Ange, lançant ainsi sa brillante carrière. Et bon, ben voilà, si ça ne suffisait pas, la musique est signée par Joseph Loduca, le compositeur des Evil Dead de Saint-Brémy, que Gans avait déjà croisé sur le tournage de Necronomicon et qui sera du coup employé par Laugier sur Saint-Ange. Voilà qui donne le tournis.
Que sais-tu de la bête?
Elle va continuer à tuer.
Et oui, tournis il y a, car tout aussi généreux qu'il soit, Le Pacte des Loups est un sacré pot pourri de tout ce qu'aime le réalisateur, et parfois même un peu trop. Délaissant de manière évidente un casting jouant uniformément mal, au profit d'une technique rigoureuse et contraignante, on a l'impression d'assister à 3 films en un, à peine séparés par les transitions aériennes où la caméra s'envole littéralement. Mais franchement, il serait sacrément vache de reprocher à son cinéphile de réalisateur de ne pas se faire plaisir, parce qu'il sait ce qu'il aime et décide à tous les instants de nous faire plaisir, à nous aussi. Et c'est ça le plus important. important. Gans livre une épopée jamais honteuse, bien au contraire, de ses origines françaises, magnifie son récit en enchaînant les morceaux de bravoure et rappelle enfin au monde entier que nous sommes la patrie de Corneille, d'Alexandre Dumas, de Théophile Gautier et de Métal Hurlant, soit l'aventure romantique la plus débridée et audacieuse qui soit.
Le Pacte des Loups, en nouvelle copie et version longue, est en salle depuis le 15 juin.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine toujours avec des films, notamment avec toi Guillaume.
Oui, la dernière production Blumhouse, Black Phone, et Elvis, le film de Baz Luhrmann.
Et Marine nous parlera de El Buen Patron. À la semaine prochaine.